Carré VIP, bonjour. Carré VIP ou VIP, vous prononcez comme vous voulez, c'est une émission dédiée aux femmes, les déménagères de plus de 50 ans. Leur temps de cerveau disponible est plus consacré aux autres, à l'art, aux affaires, ou à la littérature, ou à la politique, qu'aux plumeaux, au brushing et à la fashion. Importantes pour les leurs, dans leur quartier, dans la ville, voire bien au-delà, elles viennent bavarder avec nous au Carré VIP, avec leurs deux invités. Alors, cette semaine, je suis particulièrement honorée et heureuse de recevoir une sacrée VIP, très très very important person à mes yeux et à ceux de beaucoup d'autres, je sais, c'est Jacqueline Ripart. Bonjour Jacqueline.
Bonjour.
Et Jacqueline, vous avez invité Servane Bourges et Domi Lespinas. Bonjour les filles.
Bonjour.
Alors Jacqueline, vous avez une vie extrêmement impressionnante qui a commencé avec la musique, on va dire, mm-hmm. et puis qui s'est continuée avec le cheval.
Oui, ça s'est même passé en même temps.
Ça s'est même passé en même temps. Et alors le cheval, vous lui aviez dédié vraiment votre vie en fait.
Au cheval et à la musique, les deux ensemble.
Bon, alors ce qui vous amène ici, c'est surtout le cheval, c'est ça qui a donné cette notoriété que vous avez. Même la dernière VIP, quand je lui ai dit que je vous recevais, elle m'a dit « Hein, vous recevez Jacqueline Ripart ?» Et ouais, vous êtes connue bien au-delà de nos frontières. Nous nous sommes rencontrés au Kirghizistan, ou qu'on dit Kirghizistan maintenant. Qu'est-ce qui vous a amené au Kirghizistan ?
Eh bien, vous l'avez déjà dit, le cheval.
Oui, oui. Et pourquoi ? Quel cheval particulier il y avait là-bas qui motivait votre installation dans ce pays ?
En fait, j'ai été comme tout cavalier, comme toute personne qui est fascinée par ce monde du cheval. On rêve un jour ou l'autre d'aller au cœur de l'Asie, qui est, on peut dire, le berceau des premiers cavaliers, des premiers chevaux domestiques.
Ouais.
Et j'avais fait quelques tentatives dans le nord de la Chine, en Mongolie. Mais entre-temps, je voyageais en Afrique, en Amérique du Sud. Et le jour où je me suis sentie prête pour aborder ce continent, qui est une autre planète, en fait, j'ai décidé d'aller de visiter une culture minoritaire qui s'appelle ce sont les Kirghizes.
Ouais.
Et qui est un peuple cavalier très, très ancien, très peu connu. Et j'ai pris un billet d'avion pour atterrir à Bishkek, la capitale.
Oui, oui, oui. Ça, vous dites qu'effectivement que le Kirghiz n'est pas très connu. On connaît plus le cheval, le Mongol. La Mongolie nous paraît une terre du cheval, parce qu'il y a des peuples nomades. Et les Kirghiz, c'est un peu la même chose, mais dans les montagnes, en fait.
Oui, alors, pour moi-même, c'est très différent, parce qu'en fait, les Mongols, c'est quand même un peuple qui a été fédéré par un khan, un grand chef, qui s'appelait Genghis,
Genghis Khan.
Et c'est une époque, quand même, où ça a été l'un des plus grands territoires, la conquête des plus grands territoires en Asie. Les Kirghiz, eux, ne se sont jamais fédérés. C'est-à-dire que c'est un peuple divisé en clans qui allait au 19e siècle, par exemple. Przewalski a trouvé des Kirghiz depuis la Sibérie.
Alors Przewalski, je précise, c'est un grand voyageur russe.
C'est un explorateur russe.
Ouais, explorateur.
Et dans ses écrits, en fait, on retrouve les Kirghiz depuis la Sibérie jusqu'aux marches du Tibet.
Ah oui.
Donc en fait, les Kirghiz vivaient en clans, séparés, bon, poussés dans les montagnes. Ce sont quand même des gens de la montagne, mais n'ont jamais été fédérés. Et c'est absolument extraordinaire pour moi, ça m'a toujours fasciné, ça me fascine encore, qu'au bout d'un certain nombre de siècles, au moment de l'arrivée des Russes, les Kirghiz ont réussi à imposer un territoire et ils ont obtenu une république qui s'appelle aujourd'hui la République du Kirghizistan, qui n'est toujours pas... c'est la seule république démocratique de toute la région, mais ça n'est toujours pas une nation, il n'y a pas de nation kirghize, il y a des tribus kirghizes qui vivent sur un même territoire.
D'accord. Et alors, donc, ce qui les fédère, c'est cet amour du cheval. Et donc le cheval kirghiz, il a été un temps menacé par la présence soviétique, je crois.
Et un temps, malheureusement, un temps qui dure, puisqu'il est toujours aussi menacé de disparition, puisqu'il n'y en a pratiquement plus. C'est un cheval qui a été banni à l'époque soviétique, parce que les Russes avaient décidé de faire de cette région, qui est très verdoyante, d'en faire une zone d'élevage pour les bêtes à viande et les bêtes à lait. Et donc le cheval kirghiz, qui était un cheval de, pour se déplacer, c'était le cheval des nomades, fallait l'éliminer pour le remplacer par un cheval beaucoup plus grand, beaucoup plus, qui produisait plus de viande, plus de lait. Et le cheval kirghiz a été éliminé. Mais il n'a pas été éliminé complètement, puisque les Russes ont amené des chevaux pour qu'ils ont croisé avec les chevaux, avec les chevaux kirghiz. Donc la génétique ne s'est pas perdue, le sang kirghiz ne s'est pas perdu. Par contre, à la fin de l'époque soviétique, ces chevaux se sont retrouvés rendus à eux-mêmes, et donc on assiste maintenant à une sorte de il n'y a plus d'élevage, il y a des grands bâtards, on va dire. Il y a des chevaux partout au Kirghizistan, mais il n'y a pas de chevaux de race.
D'accord. Et là, un de vos outils, un de vos projets pour arriver à sauver ou à faire connaître, un petit peu à valoriser ce cheval kirghiz, c'était le lancement d'un festival.
Alors, ce n'est pas uniquement le cheval. Moi, j'ai créé une fondation dans ce pays, donc en 2004, après avoir voyagé pendant 4 ans toute seule dans les montagnes, parce que je ne trouvais pas de chevaux kirghiz, je ne trouvais aucune tradition équestre kirghiz. Dans toutes les célébrations, il n'y avait pas un seul cheval. Et j'ai passé 4 ans à voyager dans le pays, et à chaque fois que je parlais cheval kirghiz ou au berger, que je leur parlais de course, ils avaient les yeux écarquillés, les yeux qui brillaient, et je suis rentrée à Bishkek, la capitale. J'ai rencontré l'ambassade de France, qui m'a aidée à avoir un rendez-vous avec le Premier ministre. Et lorsqu'on a été, nous sommes retrouvés avec l'ambassadeur et le Premier ministre, les affaires de la France sont passées en 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, le Premier ministre a dit à l'ambassadeur, je pense que les affaires de la France, là, c'est clair. Maintenant, laissez-moi parler avec Jacqueline Ripart. Et à partir du moment où on a parlé chevaux, le Premier ministre s'est affalé dans son fauteuil. Il a demandé à ses sbires de partir. Ouais. Et on a parlé chevaux pendant une heure, quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais créer une fondation. Il y a encore des choses possibles à faire avec un soutien possible.
D'accord. Et donc ce festival, il est pas seulement destiné à sauver le cheval kirghiz, mais toute une culture en fait.
À relancer la culture équestre, c'est-à-dire tous les jeux, les musiques, les arts graphiques, les peintres, les sculpteurs, c'est l'ensemble en fait. Le cheval a été complètement banni de l'ensemble de leur culture.
Oui, alors donc Jacqueline, ce cheval kirghiz, ce festival là, il se déroule, il y a un festival qui se déroule tous les 2 ans, c'est ça,
alors j'ai créé un festival en 2005 qui a duré 3 ans avec le soutien du Premier ministre, etc. Mais ce pays, le plus fascinant dans ce pays, c'est que c'est une philosophie nomade, c'est-à-dire les nomades ont une philosophie très particulière et très très éloignée de la nôtre, qui est une philosophie de sédentaire. Et au bout d'un moment, j'ai compris que c'était pas à moi de continuer à organiser ce festival. Je me suis retirée et j'ai organisé des festivals beaucoup plus petits dans des villages. Et aujourd'hui, il y a des festivals qui sont nés partout dans le pays, qui sont plus des festivals touristiques, malheureusement. Mais si vous voulez, l'important est que les jeux équestres existent aujourd'hui.
Et vous êtes allé en faire aussi, ou vous travaillez un petit peu dans les pays voisins, là, genre le Tadjikistan?
Oui, parce qu'en fait, je m'intéresse donc aux Kirghiz, et non pas uniquement au Kirghizistan. Et les Kirghiz sont répartis sur 8 pays. Aujourd'hui, donc qui sont la Russie, le Kazakhstan, etc., jusqu'en Afghanistan.
En Turquie aussi, je crois, qu'il y a une communauté là-bas.
En Russie, oui. Et j'ai travaillé avec les Kirghiz de Chine, les Kirghiz du Tadjikistan. En Chine, j'ai arrêté très vite parce que ça se passait très très mal pour moi. Je pensais que je voulais encore pouvoir sortir vivante du pays. Donc j'ai continué simplement à travailler au Tadjikistan. Et j'ai recréé ce festival au Tadjikistan. J'ai été éjectée du Tadjikistan aussi. Je n'ai plus le droit de mettre les pieds au Tadjikistan. Mais le festival existe toujours, et le gouvernement local kirghiz d'une région autonome kirghize au Tadjikistan continue à organiser ce festival.
Dame Ned, Jacqueline, il est temps maintenant pour vous de faire
une déclaration. Ma déclaration.
Et votre déclaration, vous la faites à Servane Bourges. Bonjour Servane.
Bonjour.
Alors, Servane, Jacqueline vous donne la parole. Pourquoi avez-vous pensé à Servane?
Eh bien, je parlais justement de ce premier festival en 2005. Ouais. Et sur ce premier festival, je voulais absolument qu'il y ait des équipes vétérinaires, des équipes de médecins pour organiser des courses et pour que ce soit en toute sécurité. Et Servane, qui est médecin et qui est une amie, a tout de suite levé la main. Je viens comme volontaire, et elle est venue sur le festival pendant 2 ans pour soutenir le festival à tous les niveaux, non seulement au niveau médecin. Donc elle était là pour garantir un peu la sécurité des cavaliers, mais elle était toujours à cheval, elle participait aux jeux équestres kirghiz, elle s'est mise à jouer kuskumaï, enfin voilà.
D'accord. Alors, Sœur Valra, racontez-nous comment vous avez eu cette opportunité-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a amené au Kyrgyzstan?
C'est Jacqueline.
Oui, d'accord, mais comment?
C'est Jacqueline, ouais. Et donc, moi, c'est, ma devise, c'est pourquoi pas. Mm-hmm. Si on propose quelque chose, bah, pourquoi pas, j'y vais. Ouais. Et je trouvais l'idée absolument extraordinaire de pouvoir aider un peuple à retrouver son origine, en fait, ouais. Hein, ce qui les a toujours fait vivre. Et de retrouver un peu leur fierté aussi, parce qu'on sent que quand ils parlent de leurs chevaux, quand ils sont vraiment nés sur des chevaux.
Ouais,
Et puis moi, le cheval, c'est...
Ah, vous n'êtes pas né sur un cheval, mais presque. Hein.
Presque, oui, voilà. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours monté à cheval. Et puis, je dis toujours, le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où j'ai eu le droit de monter à cheval, quand ma mère n'a plus peur que j'ai les jambes arquées.
Oui. Ah ben oui, pour les filles, quand même, c'est
important. Et donc, les chevaux, la première chose que j'ai fait quand je me suis installée comme médecin, c'est avoir un cheval. Et puis voilà, toujours, j'ai toujours eu des chevaux, j'en ai fait naître à la maison, j'ai fait du concours hippique et puis des randonnées un peu partout, voilà, beaucoup en Turquie, et puis après en Asie centrale quand j'ai connu Jacqueline. Voilà.
Alors, comment on œuvre dans un pays comme ça? Il faut parler le russe pour participer
Là, j'étais avec Jacqueline et puis son équipe. Donc là, il y avait toujours un interprète. Mais non, moi, je suis très, très mauvaise pour les langues. Hein. Déjà, l'anglais, c'est un petit peu aléatoire.
Vous, votre langage, c'est le langage du cheval, quoi.
Voilà, c'est le langage avec les mains. On amène des livres. Quand on avait été en Mongolie, c'est pareil. On amenait un livre et puis... Voilà, on arrive à parler comme ça.
Alors, racontez-nous un petit peu, je sais que dans ces moments de fête, les rencontres entre les tribus, il y a des joutes, des combats.
Oui.
Alors, à bride abattue, on voit des hommes qui vont cogner
Moi,
aux femmes.
Moi, j'ai fait le qui est un jeu, ou alors il y a d'abord la femme qui... ou c'est d'abord l'homme, hein, l'homme qui essaye d'embrasser la femme, et puis après...
En se croisant à cheval, à vous galopez.
Voilà.
En se poursuivant.
Et dans le retour, c'est donc la femme qui fouette l'homme, hein, qui a voulu l'embrasser, voilà. Mm-hmm. Donc moi, j'y suis à fond, sauf que, voilà, j'avais pas vu que la porte de sortie était fermée par tous les spectateurs, et donc le cheval, lui, il a vu, paf, l'a pilé, j'ai fait un beau saut périlleux par-dessus.
Et recueilli dans une foule de
Mais
Kyrgyz.
Se donnant à fond, hein, vraiment.
Ça, c'est vraiment un spectacle tout à fait extraordinaire. Et donc, ça en dit long aussi sur cette culture où les femmes avaient un rôle égal à celui des hommes. Je ne me trompe pas, Jacqueline?
Auparavant, les femmes montaient à cheval parce que de toute façon, dans un peuple nomade, le cheval est le seul moyen de locomotion. Tout le monde était à cheval.
Ouais.
Mais aujourd'hui, il n'y a plus une seule femme qui monte à cheval.
Ah oui.
C'est très très rare. Et moi, j'ai recréé une équipe de filles pour relancer ce jeu. Et là, je les ai invitées cette année à plusieurs endroits. Et on va aller en Turquie l'an prochain pour un festival où je suis très très contente qu'une équipe de filles soit recréée au Kyrgyzstan pour monter à cheval.
Ah, formidable. On reste un petit peu dans le cheval avec la première chanson que vous avez choisie, Jacqueline. C'est Le Petit Cheval Blanc de Georges Brassens.
Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village. À travers la pluie noire des champs, tous derrière. À travers la pluie noire des champs, tous derrière et lui devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière. C'est alors qu'il était content, tous derrière lui, devant. Mais un jour dans le mauvais temps, un jour qu'il était si sage, Il est mort par un éclair blanc, tous derrière, tous derrière. Il est mort par un éclair blanc, tous derrière et lui devant. Il est mort sans voir le beau temps, qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le printemps, ni derrière, ni derrière. Il est mort sans voir le beau temps, ni derrière, ni devant.
Le petit cheval blanc, chanté par Brassens. Pourquoi ce choix, Jacqueline ?
Eh bien, parce que le cheval, comme on parle, Brassens, est utilisé jusqu'à son dernier souffle. Ouais. Et c'est le cas de beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays dans le monde.
Et c'est ça qui vous fait vous lever, hein, souvent ?
Je pense, moi je suis quelqu'un qui respecte, j'essaye au minimum de respecter le monde animal, le monde végétal, le monde humain. Je pense que c'est un minimum à faire sur Terre.
Je pense aussi. Jacqueline, il est temps pour vous maintenant.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie.
Et alors, ce qui vous met en joie, c'est de recevoir Domi Lespinas. Alors, Domi, autant le dire encore, c'est le Kyrgyzstan, le cheval et Jacqueline Ripart qui vous ont fait venir jusqu'à nous. Jacqueline, racontez-nous votre rencontre avec Domi.
Eh bien, dans le cadre de ma fondation, j'ai soutenu une association de guides qui s'est créée, qui sont des bergers qu'on a formés au métier de guide en 2004. Pendant 4 ans, il y a des équipes qui sont venues les former, leur expliquer quelles étaient les attentes des voyageurs, des touristes. Et ces bergers, maintenant, travaillent comme guides l'été.
Ouais.
Mais sont vraiment des bergers, ils vous amènent chez eux, en fait. Et il y a des petits groupes de voyageurs qui viennent de France ou d'ailleurs pour voyager avec ces bergers. Et
Domi est
arrivé. A entendu parler des copains qui étaient venus et Domi est venu rencontrer ces bergers.
Et Domi nous fait la gentillesse de venir au Carré VIP aujourd'hui. Vous habitez en Normandie, vous habitez à Coutances, originaire de Lorient.
Voilà.
Et quand Jacqueline vous a proposé de venir, vous êtes venue ici à bride abattue presque.
Oui, tout à fait. En fait, il y a des rencontres souvent dans notre vie. Il y a des rencontres qu'on n'oublie pas. Et quand Jacqueline m'a proposé de venir, d'un seul coup, tout est revenu. Tous ces moments qu'on a passés au Kyrgyzstan qui m'ont marqué énormément. Parce qu'en fait, l'Asie centrale, moi, je ne connaissais pas du tout. On a beaucoup voyagé avec nos enfants et c'était la première année où on se retrouve à nouveau à deux quand on a pu partir, donc mon mari et moi, au Kyrgyzstan. Et donc, c'était à nouveau une certaine liberté déjà d'être deux en voyage, mais l'Asie centrale, on ne connaissait pas. On n'est pas cavaliers, nous. Donc, en plus, il y avait une dimension un peu d'inquiétude avant, parce qu'en fait, on est toujours quand même à se demander, le cheval, est-ce qu'on va être capable de faire une balade pendant une semaine ? Et Jacqueline a su comprendre d'abord notre envie, selon ce qu'on souhaitait. Elle a su mettre en place tout ça. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est très éco-responsable. On est avec des bergers. Elle fait très attention à ce que, justement, les bergers, le tourisme ne devienne pas leur source première
de revenus,
mais bien un complément de nous faire découvrir à nous leur vie. En fait, on ne vient pas là simplement pour profiter, mais comprendre en fait ce que c'est que leur vie, et découvrir leur mode de pensée, leur mode de vie. Et moi, j'ai trouvé qu'en 10 jours, c'est incroyable ce qu'elle avait réussi à nous faire vivre. Et un sentiment de liberté dans le Pamir, quelque chose d'exceptionnel. Et le rapport au cheval, alors là, un moment magique, parce que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Servan, c'est qu'à un moment donné, faire confiance à l'animal, parce que c'est son terrain, il est chez lui, et qu'en fait, vous n'êtes que l'élément qui est sur son dos, mais qui en fait n'a pas forcément toutes les clés. Et il y a des moments où, en fait, dans certains passages, il y a on se laisse aller complètement et on lui dit vas-y, de toute façon je te fais confiance, donc c'est toi qui vas me porter, c'est toi. Et ça a été ça pendant une semaine et ça a été magnifique.
C'est un peu, on tutoie les nuages, le ciel, c'est le toit du monde, c'est ça, tout ce qui a été exprimé par Ella Maillard, qui est un de vos modèles, je crois, enfin, en matière de récits, d'aventures. Ella Maillard nous a beaucoup transporté déjà dans ces pays-là. Et vous, donc là, c'était une découverte, vous n'étiez pas spécialement cavalière avant d'aller au Kyrgyzstan?
Non, j'avais déjà fait plusieurs fois du cheval, mais jamais, en randonnée quelques fois en France, mais plus sur une journée, et puis sur des Mérins, donc des bons gros chevaux, pareil, parce que j'ai besoin d'avoir confiance, parce que j'ai fait plusieurs chutes, j'ai pas de chance, donc j'ai fait déjà plusieurs chutes. Et là cette fois-là, donc dans le Pamir, un sentiment de sécurité du fait aussi des personnes qui nous accompagnaient, qui étaient très vigilants et très attentionnés, parce que quand il y a un étalon qui arrive au galop qu'on entend hennir au loin et qu'on se dit mais alors là moi je suis sur mon cheval, mais lui s'il décide à un moment donné de partir suivre notre cher ami l'étalon, que va-t-il se passer? Et là, vous avez le guide et son fils qui sont juste merveilleux, qui arrivent à se mettre entre vous et les talons et qui vous expliquent. Alors, on ne parlait pas russe, hein, donc il y a eu des explications assez fantastiques le soir avec des dessins, avec des images. On essayait de leur faire comprendre des tas de choses parce qu'on ne parlait ni l'un ni l'autre le russe. Donc, le jeune garçon parlait un tout petit peu l'anglais.
Ouais.
Mais ça a été vraiment un très très beau moment qu'on a envie de revivre, donc on va essayer de remettre ça très
alors,
bientôt.
On imagine les soirées au coin du feu, là, le bivouac, vous dormez sous la yourte, j'imagine. Et alors il y a des instruments de musique, vous avez découvert la musique kirghize comme ça?
Alors nous, c'était pas sous la yourte, c'était des tentes Red Fox, si je me rappelle. Donc comme des petites quechua en fait, hein, les petites tentes igloo.
Plus simple
voilà.
Et plus vite
voilà, tout à fait. Et en effet, avec un dîner qu'on faisait sous la tente avec les guides, et donc il y a eu des discussions assez drôles. Il y en a une, entre autres, on avait notre fils qui était, lui, en France, donc premier été qu'il passait en France, et il travaillait, il faisait les marées. Mmh. Donc, pour les Bretons ou surtout les Normands, faire les marées, c'est-à-dire qu'on va ramasser les huîtres, on va remuer les poches à huîtres. Et il a fallu expliquer ça à notre guide et à son fils.
Pas simple, avec des montagnards, leur parler de l'élevage des huîtres sur la côte normande.
Et leur expliquer qu'en plus, on mange en fait des cailloux qu'on ramasse dans la mer avec un tracteur parce que la mer est partie et qu'il faut attendre. Et donc, ça a créé une ambiance tout de suite assez drôle, avec des morceaux de papier pour faire les vagues, avec le bruit pour les faire imaginer un tracteur. Et puis, eux, la mer, qu'ils avaient vu qu'à la télévision, donc, et encore. Donc ça a été assez drôle.
C'est très, très radiophonique ou même cinégénique. On va écouter un peu de musique. Vous nous avez apporté un disque, Jacqueline. On écoute tout de suite. C'est quoi cet instrument là, Jacqueline?
Un koumous.
D'accord.
C'est une sorte de guitare à trois cordes.
Mm-hmm. Et donc cette musique, elle est dédiée au cheval aussi?
Oui, c'est une musique qui est dédiée au galop du cheval.
D'accord. Et là, vous l'entendez galoper?
Ah oui, oui vraiment. Oui.
Là, ce sont les petites notes qui annoncent le coup de gueule. Est-ce qu'il y a des choses qui vous énervent dans le monde, Jacqueline ?
Eh bien, par exemple, si l'on parle du Kyrgyzstan.
Oui, par exemple, au hasard, parlons du Kyrgyzstan.
Voilà. C'est vrai que c'est un pays tout petit. C'est un pays où, qui est habité de 6 millions d'habitants.
Et comparons par la surface par rapport à la France, c'est quoi ? C'est
un tiers de la France.
Un tiers de la France, d'accord.
Donc c'est tout petit. On n'a jamais appris l'histoire de toutes ces régions, ni à l'école, ni dans les livres d'histoire, ni dans les livres de géographie, etc. C'est une ex-république soviétique, je le précise. Et c'est un pays qui est en train de s'ouvrir et qui est malheureusement extrêmement galvaudé. C'est-à-dire,
ah oui.
Une des choses qui me fait terriblement peur, c'est le tourisme de masse.
Oui.
Et c'est vrai que tous les médias en parlent de plus en plus comme l'une des 10 prochaines destinations dans le monde. Mmh. Comment dire, un pays tout neuf qui s'ouvre au tourisme, c'est extrêmement dangereux. Donc c'est vrai que moi j'y fais un travail de fourmi, mais j'ai très peur d'être très,
les éléphants
très
des boules,
doublé
quoi.
Par ce tourisme de masse qui va pourrir le pays.
Alors Jacqueline, vous restez en forme avec cette musique-là, ou d'une manière générale, qu'est-ce qui vous fait rester en forme ? Je crois que vous avez un grand soin sur votre nourriture, et puis une vie un peu ascétique, on va dire.
Ascétique, je ne pense pas,
non.
Mais
frugal.
Je prends beaucoup soin de moi. Par exemple, le matin, la première chose que je fais dans la journée, quand je me réveille, c'est de regarder le ciel. Si je ne peux pas voir le ciel, c'est vrai que je suis extrêmement frustrée, et de manger un panier de fruits.
Très bien.
Voilà. Je démarre ma journée.
Est-ce que l'hiver au Kyrgyzstan, manger des fruits, c'est comment on fait ?
Eh bien, on peut les acheter dans le commerce.
Ouais.
Aujourd'hui, on trouve absolument tout à Bishkek.
Mm-hmm.
Bishkek, on dit que le Kyrgyzstan est l'un des 49 pays les plus pauvres au monde, mais je peux vous assurer que c'est un pays où très riche, c'est un pays où il y a énormément d'argent. C'est un pays, c'est un peu Las Vegas actuellement. C'est vraiment une ville où il fait bon vivre.
Oui, oui. Ouais.
Et il y a, voilà. Y a
la situation de la femme là-bas, c'est comment ? Ce qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, là, dans les joutes, les femmes, on a vu dans certains films ou des documentaires sur le Kyrgyzstan, l'islam un peu, la pieuvre de l'islam qui voudrait laisser les femmes à la maison, à s'occuper des enfants et surtout pas dans la vie, dans la société. Vous le remarquez, ça ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout depuis les événements en Turquie, il y a énormément de gulenistes qui sont restés, qui sont venus se réfugier au Kyrgyzstan. Mais il y a malheureusement, effectivement, tous ces faits. Enfin, dans la tradition aussi, la femme au Kyrgyzstan, mais vraiment pas, c'est pas un être respecté du tout.
Oui.
Mais par contre, il y a certaines femmes qui commencent à être tête de file et à faire des choses. Et il y a par exemple, voilà, une fille qui a décidé de tirer à l'arc.
Mm-hmm.
Et pour le monde masculin, qu'une fille vienne tirer à l'arc, c'était quelque chose. C'était bouleversant.
Ah oui,
mais elle est là et maintenant elle a créé des équipes de filles. Donc il y a quelque chose qui débute et qui est prometteur.
Jacqueline Ripard, nous allons écouter encore un choix musical. C'est l'homme à l'harmonica.
Ah oui.
C'est qu'est-ce que ça signifie pour vous cette musique là de Il était une fois dans l'Ouest?
Eh bien, c'est tous ces rêves d'enfants qui sont que des rêves parce qui ne correspondent absolument pas à la réalité.
Ces notes d'harmonica qui nous font complètement partir à cheval presque. Alors on était dans le Far West, on va revenir dans le Far East avec vous, Jacqueline Ripard. Donc pour les auditeurs, auditrices qui aimeraient en savoir un petit peu plus sur vous, je voudrais quand même rappeler les quelques livres que vous avez faits. Il y en a au moins deux qui nous permettront d'en savoir un peu plus. C'est les Chevaux Célestes qui avaient été publiés chez Flammarion. Il y a les Chevaux du Monde que vous avez publié chez La Martinière. Mais je crois que maintenant vous avez une activité, vous préférez mettre en avant des livres que vous contribuez à rééditer, des livres oubliés par d'auteurs un peu...
Ou qui n'ont jamais été traduits.
D'accord. Alors par exemple, celui sur Goulsari, c'est ça ?
Voilà, Adieu Goulsari, qui est... l'auteur est un écrivain kirghize très connu qui s'appelle Chingiz Aitmatov, qui est décédé il y a quelques années. Et il a décrit l'époque stalinienne au travers de l'histoire toute simple d'un homme et de son cheval. C'est déchirant, c'est très très fort. Et j'ai choisi de publier cet ouvrage parce que c'est le départ de la disparition des traditions kirghizes et du cheval kirghize.
D'accord. Et il y a un autre livre, on a évoqué tout à l'heure Przewalski, le fameux explorateur russe, qui est mort au retour de sa cinquième expédition, je crois, en Ouzbékistan. Enfin, non, pardon, au Kyrgyzstan, c'est ça, Issyk-Kul, c'est ça, je me trompe.
Il est enterré dans la région d'Issyk-Kul, ouais. Au Kyrgyzstan.
Et donc, vous avez œuvré à la publication de son...
À la traduction. Et à la publication. Donc, j'ai trouvé un éditeur ici en France qui a accepté d'éditer ce livre. Ouais. Pour moi, c'était extrêmement important de sortir ce livre parce qu'il n'existait pas en français. Et cet explorateur russe donne vraiment les clés de l'histoire. Au moment du tournant du grand jeu entre l'Empire britannique et l'Empire russe au 19e siècle. Et toute l'histoire aujourd'hui, tout ce qui se passe en Asie centrale a démarré à cette époque-là. Et donc pour moi, c'était très important que ce livre soit publié en français.
Donc ça permet vraiment de comprendre le monde d'aujourd'hui en fait.
Énormément de clés, oui.
Et Przewalski, il a donné son nom à un cheval, c'était le plus petit cheval du monde, c'est ça ?
Non, ce n'est pas le plus petit cheval du monde, mais c'est une branche différente d'Equus, qui n'est pas l'Equus caballus, qui est donc l'Equus Przewalski, parce qu'il n'a pas le même nombre de chromosomes, etc. Et c'est au début, donc, les scientifiques pensaient que c'était un âne sauvage, et en fait, il a été prouvé que c'était bien un cheval, mais d'une autre branche équine.
D'accord. Merci Jacqueline pour tout ce que vous êtes, ces fenêtres merveilleuses que vous nous avez ouvertes sur un monde peu ou mal connu. Je voudrais redonner peut-être la parole à nos invités, si vous avez peut-être des choses à nous dire. Je pensais à Domi qui travaille sur le festival de jazz sous les pommiers à Coutances. Alors la prochaine édition, c'est le moment de nous en parler un petit peu.
La prochaine édition qui arrive à grands pas, là on est en plein préparatif. Hein, donc c'est cette année du 24 mai donc au 1er juin, c'est toujours de toute façon autour de l'Ascension, hein, comme toujours. C'est la 38e édition quand même, donc n'hésitez pas, là on a annoncé les premiers noms, mais la programmation complète ce sera à partir du 26 février, donc sur le site de Jazz Sous les Pommiers. C'est un lien aussi entre la Normandie, le cheval et tout ça, puisque quand même la Normandie est aussi une terre... pour le cheval, et avec nos belles plages pour galoper. J'invite Jacqueline, un de ces quatre, à venir justement galoper sur les plages sauvages de la Manche.
Et écouter de la musique. Le Carré VIP se termine déjà. C'était un immense bonheur de recevoir Jacqueline Ripard, Domi Lespinas et puis Servane Bourges. Servane, un petit mot encore, peut-être aussi vous sur
Moi, le petit mot, ce serait pour Jacqueline, qui est un être pour moi exceptionnel, un être rare et qui fait du bien.
Oui. Merci Servane, vous rejoignez tout à fait le propos et l'objectif de cette émission Carré VIP qui est celui de se faire du bien entre femmes.
Au revoir Marie-Christine.
c'était un tout petit peu trop tôt, mais c'est pas grave, vaut mieux se dire deux fois au revoir. Je voulais donc dire au revoir aux auditeurs, aux auditrices, remercier Xavier Jean qui était le chef des manettes, aux manettes aujourd'hui, et dire qu'on se retrouve très vite sur, aussi sur, si vous voulez réécouter l'émission, soit en podcast sur le site de RCF ou sur le site web unidiver.fr. Et je vous donne rendez-vous donc au mois prochain, où cette fois-ci notre invitée sera aussi une femme tout à fait exceptionnelle. Elle s'appelle Isabelle Dogniaux et elle est très investie. C'est une psychologue à une personnalité hors du commun et qui est très investie dans le bistrot mémoire pour tous les gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer. Et ben voilà, cette fois il est temps de me dire au revoir les filles.
Au revoir, au revoir, Christine.